Bonsoir. L'école de Paris est accueillie ce soir par le Collège des Bernardins et la chaîne Catéo dans une première partie. Nous allons traiter de management, mais d'un sujet particulier puisqu'il s'agit de management de la cité en étudiant la question de l'immigration. Vous le savez, dans de nombreux pays d'Europe, le problème est posé, ce qui se manifeste d'ailleurs par la montée de partis populistes, voire xénophobes. Mais il prend un tour particulier en France, qui avait depuis des siècles une capacité d'assimilation réputée. On a pu voir au XXe siècle des vagues d'immigration, des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, etc. Au début, l'assimilation n'était pas toujours facile, au début de la vague, mais en une ou deux générations, elle se faisait. Les descendants gardaient le nom d'origine et avaient souvent un prénom francisé. Piotr devenait Pierre, Antonio devenait Antoine, Juan devenait Jean, et ils devenaient progressivement indiscernables des autres Français. On pouvait dire que la France marchait au mélange. Cela semble plus fonctionner aussi bien aujourd'hui, et les interprétations simples, schématiques, abondent, vous les avez souvent entendues dans les débats publics. Les idées simples mènent aux solutions simples, ou simplistes, qui ne marchent guère, et nous allons ce soir essayer d'avancer avec plus de finesse. Alors pour cela, j'ai lu il y a quelque temps le livre de Philippe Diribarn, « Les immigrés de la République, les impasses du multiculturalisme », livre qui m'a fulguré et qui m'a donné l'idée d'organiser ce débat. Il met en scène la tension entre deux modèles français, un modèle qu'on appellera l'idéal républicain, qui prévoit l'égalité de tous les citoyens, y compris les immigrés, dès lors qu'ils ont la nationalité française, et un deuxième logique, qui est le mode de fonctionnement du corps social, qui va à l'inverse. Vous le savez, les gens sont en permanence jugés, classés, hiérarchisés, selon des critères difficiles à comprendre pour qui ne connaît pas la culture française, donc pour les immigrés. Et il faut qu'ils trouvent leur place selon ces codes qu'ils ont du mal à appréhender. De tout temps, il y a eu une recherche de compromis entre ces deux modèles, le modèle républicain et le modèle du fonctionnement social, mais les compromis trouvés par le passé semblent ne plus marcher. Et Philippe Diribarn nous exposera sa thèse à ce sujet. Louis Schweitzer le commentera ensuite et la discutera à la lumière de son expérience de président de la HALDE et d'auteur du livre « Les discriminations en France », livre que j'ai trouvé passionnant qui montre que la lutte contre les discriminations demande beaucoup de rigueur et de savoir-faire dans la gestion symbolique. Ensuite, Claude Rivlin apportera son point de vue de chercheur en gestion, puisque j'ai parlé de management de la cité. Il a, entre autres, montré l'importance méconnue des rites dans la vie collective. On aime vivre dans ces rites, donc on ne voit plus souvent, et on supporte souvent mal les rites des autres. Lire aussi les débats sur le voile ou sur les habitudes alimentaires islamiques. Par ailleurs, les habitués de l'école de Paris se précipitent généralement sur le journal de l'école de Paris à la page idées de Rivlin, et vous pourrez trouver à la sortie le recueil que nous avons fait des pages idées. Ayant présenté le débat et les orateurs, je passe la parole à Philippe Diribarn.
Donc, comme vient de le dire Michel Berry, la société française s'interroge sur le fait que les problèmes d'intégration des populations issues de l'immigration ne concernent plus seulement, ni même d'abord, la première génération, mais la deuxième, voire la troisième ou la quatrième, que l'on appelle du nom un peu problématique d'immigrés de deuxième ou troisième ou quatrième génération. Et les Français sont perplexes, et dans les enquêtes d'opinion, ils sont fort divisés sur les raisons de cette situation. Et donc, par exemple, dans un sondage, à une question, laquelle de ces deux phrases se rapproche le plus de ce que vous pensez, 48% des Français ont répondu en novembre 2008, ce sont les personnes d'origine étrangère qui ne se donnent pas les moyens de s'intégrer, tandis que 37% préférés, c'est avant tout la société française qui ne donne pas les moyens aux personnes d'origine étrangère de s'intégrer. Alors, pour ma part, je ne chercherai nullement des coupables, et je pense qu'on a affaire beaucoup plus que la culpabilité des uns et des autres à un phénomène difficile à gérer et avec lequel la société française se débat. Je voudrais, au fond, partir d'un petit texte extrait de Bourdieu, « La misère du monde », dans lequel Bourdieu évoque la question des banlieues et évoque la situation de personnes qui se trouvent prises dans un dilemme, qui simultanément sont extrêmement attachées à un idéal républicain et qui, en même temps, dans leur vie quotidienne, se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à agir conformément à cet idéal. Je cite donc Bourdieu. Il dit donc, tout tente à montrer que les traditions et les convictions internationalistes et antiracistes qu'ils ont acquises à travers leur éducation et leurs engagements politiques et qui sont renforcées par la condamnation officielle de la discrimination et des préjugés raciaux, sont mises à rude épreuve au jour le jour par la confrontation avec les difficultés réelles de la cohabitation. Et il évoque, par exemple, divers témoignages tels, dit-il, celui de cette vieille militante socialiste qui, surtout l'été et en période de fête, ne peut plus supporter les bruits et les odeurs de l'immeuble auquel elle se sent enchaînée, ou celui de ce couple de vieux militants communistes qui, pour les mêmes raisons, ont dû déménager, la mort dans l'âme, avec le sentiment de manquer à toutes leurs convictions. Et donc, on voit bien, à travers ces propos, que les tensions internes à la société française en ce qui concerne cette intégration des immigrés n'opposent pas simplement des forces politiques qui auraient des visions différentes, disons une vision des populistes d'un côté et de l'autre des vrais républicains, mais se passe à l'intérieur même de chacun. Alors, comment comprendre cette situation? Eh bien, en fait, elle reflète une vieille question qui se pose depuis bien longtemps en France, mais et de manière plus générale dans l'ensemble des sociétés démocratiques, qui est effectivement de savoir comment raccorder une vision de la société composée de citoyens, tous égaux, méritant tous, dans la mesure où ils respectent la loi, d'être traités exactement de la même façon que tous les autres citoyens, sans être victimes d'aucune sorte de discrimination, et d'un autre côté, le corps social, qui, comme l'a évoqué Michel Berry, comme vous le savez bien, est extrêmement attentif à tout ce qui différencie les humains, et en particulier à leurs origines. Alors, cette question s'est déjà posée de manière extrêmement vigoureuse au moment de la Révolution française. À la fois, la Révolution française a voulu instaurer une société d'égaux, et en même temps, la Révolution française, on l'a vu à travers la question du suffrage, a été extrêmement sensible à ce qui différencie les humains empiriques. Et vous savez que jusqu'en 1848, on a distingué les citoyens actifs et les citoyens passifs n'étant pas jugés capables, de par leur manque de lumière, de participer au suffrage. Et en 1848, c'est par une sorte de coup de force intellectuel que le suffrage a été étendu dans un premier temps à tous les hommes avant d'être étendu aux femmes en 1944, coup de force par lequel on a dit que le fait même de voter constituait une sorte de sacrement, c'est le terme qui a été utilisé, qui régénérait les personnes, et c'est cette régénération même qui leur permettait d'être qualifiés pour devenir de vrais citoyens et avoir le droit de voter. Et donc, quand il s'agit de voter, effectivement, cette image de la non-discrimination est parfaitement respectée, qui que vous soyez, riche ou pauvre, vieux ou jeune, plein d'intelligence ou à la limite de l'affaiblissement mental, vous aurez dans le bureau de vote exactement les mêmes droits, vous ferez la même queue et votre bulletin vaudra la même chose que le bulletin de tout autre. Mais dans les autres domaines de la vie sociale, on est loin d'être arrivé à cette même conciliation, à ce même reformatage du corps social lui permettant de fonctionner réellement comme une société d'égaux. Et si l'on prend en particulier, c'est un domaine qui a été l'objet depuis tout le 19e et toute la première moitié du 20e, et même encore maintenant de fortes tensions, qui est le domaine du travail, on voit que toute la législation du travail qui a été élaborée, disons, au cours de ces siècles, qui a visé à certains égards à faire que le monde du travail soit fidèle à une image de la société composée de citoyens égaux, mais en même temps, à travers la multiplication des statuts différenciés, par exemple, à travers le fait que est respectée dans le monde du travail de multiples différenciations entre métiers, eh bien, on est arrivé à une sorte de côte mal taillée entre l'égalité et l'inégalité. Et on pourrait dire, par exemple, on pourrait prendre une image, imaginez le journaliste d'un journal comme Libération, le Nouvel Observateur, qui, après avoir milité pour en déclarant que les Afghans ou les Maliens sont des Français exactement au même titre que tous les autres et qu'il est scandaleux de faire quelques discernements entre eux, se verrait dire qu'un journaliste de gala appartient à la même catégorie que lui. Probablement, il dirait que vraiment, c'est une atteinte intolérable à sa dignité que de vouloir les mettre dans le même sac. Et donc, avec l'immigration, on est actuellement, disons, dans une situation dans laquelle ces formes de compromis n'ont pas été élaborées, et je pense que vous avez été sensible comme moi, à l'extraordinaire vigueur du débat qui s'est produit en France l'année dernière à propos de la question de l'identité française, dans lequel on a vu affirmer de manière, je dirais, plus vigoureuse que cela n'avait été le cas depuis bien longtemps, que la France était un pays qui devait être fidèle à sa tradition républicaine, dans lequel sa seule identité était une identité conforme aux droits de l'homme, ouverte indéfiniment à la pluralité des cultures, à la pluralité, disons, des situations, et dans lequel, simultanément, on a vu bien affirmer que, somme toute, la France avait son identité particulière et qu'il n'était pas pareil d'être français d'une manière ou d'être français d'une autre manière. Alors, la question qui se pose, au fond, devant cette situation, et en particulier la question qui se pose au pouvoir public, est de savoir quel statut on peut donner à tout ce qui fait que il existe tout un univers de sentiments, un univers d'attachement à un monde familier, un univers de sentiments de proximité ou de distance, de confiance ou de méfiance, qui fait que les Français, comme du reste les autres Européens ou les habitants de n'importe quel pays, réagissent de manière différenciée envers leurs concitoyens. Enfin, on dirait qu'il y a, en quelque sorte, trois possibilités pour cela. Une première possibilité serait de dire: c'est cela relève du registre du mal, disons d'un mal qu'il faut combattre à la fois par des efforts d'éducation et par des efforts de mise en œuvre d'une législation, de poursuite de ceux qui contreviennent à ces règles, de ceux qui traitent les autres de manière discriminatoire. Et donc, on va obtenir, disons, à force d'efforts, une sorte de reformatage du corps social. Une deuxième vision serait de dire tout ça n'est pas brillant, mais enfin, on sait bien que les hommes ne sont ni des héros, ni des sages, ni des saints, et donc il faut bien s'en accommoder, tant bien que mal. Et une troisième vision serait de dire, au fond, on a là-dedans un élément de la finitude humaine qu'il va falloir assumer, et qu'à refuser d'assumer celui-là, on serait justiciable de la critique de Pascal, qui veut faire l'ange, fait la bête. Alors, je dirais, pour ma part, que je pense qu'il y a des éléments qui relèvent des trois catégories. Il y a des éléments qui relèvent de discrimination effectivement intolérable qu'il faut poursuivre, mais qu'il y a aussi des éléments qui relèvent de la finitude humaine et que l'on ne peut se dispenser de faire dans ce domaine. Ce que l'on a fait dans le domaine du travail, qui a été d'élaborer des compromis réalistes entre la volonté d'égalité et la réalité de la différenciation du corps social. Alors, à propos de cela, et je conclurai là-dessus, quel est le rôle donc pour l'État? Est-ce que le rôle de l'État est d'être, comme il l'a été dans le domaine du travail, une partie prenante de l'élaboration de compromis? Alors, rôle que l'État a joué dans le domaine du travail en coopération à la fois avec le patronat et avec les forces syndicales, dans une opération, disons, qui a duré, disons, bien du temps. Donc, est-ce que l'État va de la même façon participer à l'élaboration de tels compromis dont nous pourrons discuter tout à l'heure, disons, de quel peut être le contenu? Ou est-ce qu'au contraire, le rôle de l'État est d'être dans la position d'Antigone, qui va affirmer, disons, des principes de manière claire, raide et carrée, en considérant que, tant pis si le corps social, disons, ne respecte pas ces principes, au moins en les affirmant, il aura satisfait sa conscience. Je m'arrête donc là, oui. Et avant de poursuivre la discussion.
Je passe la parole à Louis Schweitzer, qui, à la présidence de la HALDE, s'est peut-être projeté comme quelqu'un qui allait faire reculer le mal des discriminations.
C'était effectivement la mission de la HALDE. Je rappelle que la HALDE, c'est la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, donc une autorité de lutte. Je voudrais repartir de l'exposé de Philippe Thiry-Barne et du thème du sujet. Premier point, les immigrés, c'est peut-être une perplexité française, mais reconnaissons-le, c'est un problème qui se pose dans tous les pays riches du monde et aucun de ces pays ne peut s'ériger en modèle et ne peut légitimement donner de leçons à d'autres pays. Certains, dans certains domaines, font mieux que d'autres, mais il n'y a pas de pays modèle. Je voudrais, en second lieu, faire part de quatre convictions de départ. La première, c'est que l'immigration est un plus pour le pays d'accueil. La seconde, c'est que les mouvements migratoires se développeront à l'avenir, qu'on se fait des illusions en croyant que des frontières les arrêteront, parce que dans un monde ouvert où chacun voit la richesse de l'autre, l'inégalité des pays crée des inégalités de pression et donc des mouvements migratoires. Et je pense même qu'on sous-estime fortement, à horizon de 10, 20, 30 ou 40 ans, le poids de l'immigration dans la démographie des différents pays du monde. Ma troisième conviction, c'est que le modèle français, fondé sur l'idée d'intégration, est un bon modèle. Je rappelle les bases de ce modèle français. C'est d'abord le droit du sol. Autrement dit, en venant en France, vos enfants deviennent français et vous-même le devenez. C'est en second lieu la laïcité. C'est en troisième lieu l'intégration que je distingue à la fois de l'assimilation et de ce que les Anglais appellent le multiculturalisme. L'assimilation, c'est de demander aux immigrés de renoncer, de renier leur passé, leur histoire, et de s'assimiler entièrement au pays d'accueil. Le multiculturalisme britannique, c'est chacun vient avec tout son bagage, et dès lors qu'il ne trouble pas la paix de la ville, il le garde en entier. Et mon homologue britannique disait: la Grande-Bretagne va en somnambule vers la ségrégation en appliquant ce modèle de multiculturalisme. Notre modèle d'intégration, c'est un modèle où on garde son histoire et son passé, mais on assume entièrement les lois et les droits et l'appartenance au pays d'accueil. Alors, j'ai dit ma conviction de la qualité de ce modèle. Je reconnais volontiers avec Philippe d'Iribarne qu'il ne fonctionne pas aujourd'hui. Mais je crois que c'est quelquefois un péché français, quand un système ne fonctionne pas, de vouloir le changer avant de se demander si on l'applique vraiment. Et je pense qu'en fait, nous n'appliquons pas pleinement nos principes d'intégration. Et ma quatrième conviction, elle résulte des trois premières, c'est que l'objectif pratique, c'est effectivement de faire fonctionner ce modèle d'intégration. Et que ce modèle d'intégration appelle trois éléments pour fonctionner: l'égalité des droits, l'égalité des chances et la participation à une vie commune. Et je voudrais brièvement évoquer ces trois éléments. D'abord, l'égalité des droits et j'ajoute l'égalité des devoirs. L'un et l'autre ne sont pas séparables. Et on peut difficilement évoquer l'égalité des devoirs si on n'a pas accordé l'égalité des droits, la réciproque étant vraie. Le contraire de l'égalité des droits et des devoirs, c'est bien sûr la discrimination. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Quand on interroge en sondage, Philippe d'Iribarne a évoqué un sondage, 94% des Français sont pour qu'on lutte contre les discriminations. Et les discriminations font l'objet d'un arsenal juridique depuis la Déclaration des droits de l'homme, les traités internationaux, la loi française. Bref, on a des lois parfaitement satisfaisantes qui interdisent toutes les discriminations. La réalité n'est pas en ligne avec ces lois. Je vais en prendre deux exemples. Toujours dans le sondage, on demande aux gens: avez-vous fait l'objet d'une discrimination dans les 12 derniers mois? 8% répondent oui. 8%, c'est 4 millions de personnes. Alors on me dira, un sondage, c'est un sondage. Alors on peut prendre quelques faits. Nous faisons des tests, vous savez ce que c'est qu'un test. Deux personnes qui sont pareilles, sauf sur un critère, font la même démarche. Par exemple, deux personnes qui ont les mêmes diplômes, les mêmes cursus, le même âge, envoient un CV et on voit quel est le taux de réponse. Réponse, si vous venez du sud de la Méditerranée, vous avez trois fois moins de réponses que si vous venez du nord de la Méditerranée. Même test avec un logement. Vous cherchez à louer un logement. Vous avez les mêmes ressources, le même âge, le même travail, le même CDI. Si vous venez du sud de la Méditerranée, vous avez 9 fois moins de chances d'obtenir le logement. Ça, ce n'est pas des sondages, c'est des faits. Et ce qui est important pour lutter contre, pour l'égalité des droits, c'est que cette différence de traitement n'est pas le fait que des personnes racistes. Les racistes, il y en a en France, c'est une petite minorité. c'est surtout le fait de préjugés, d'association d'une origine à une certaine image, à des compétences ou à l'absence de certaines compétences, ou simplement même le fait d'habitude. Je prends un exemple parce que je parle à des gens issus d'une école éminente. Si vous recrutez que les anciens élèves de certaines grandes écoles, la probabilité d'avoir un recrutement diversifié est faible. Vous aurez, par exemple, proportionnellement pas beaucoup de femmes. Vous en aurez, mais proportionnellement beaucoup moins. Et donc, quand on veut lutter pour l'égalité des droits, il ne faut pas seulement lutter contre le racisme. Il faut faire une pédagogie pour changer les préjugés et des pratiques, des bonnes pratiques, pour remettre en cause les habitudes. Et on ne peut donc pas séparer ces éléments, la lutte contre le racisme, la pédagogie et les bonnes pratiques. Alors le second point, parce que l'égalité des droits est une chose, les concours assurent l'égalité des droits, on voit bien que l'égalité des chances qu'offrent nos concours, pour prendre cet exemple, ou de l'accès à l'emploi, est plus théorique que réelle. Et donc, si on veut assurer une vraie égalité d'opportunités, qui fait aussi l'objet d'un consensus, il faut aller au-delà de l'égalité des droits formels. Prenons quelques exemples concrets. Notre système éducatif ne discrimine pas, ou presque pas. En revanche, c'est vrai qu'il ne compense pas l'inégalité des chances que subissent certains parce qu'ils habitent dans certaines villes, dans certains quartiers, parce qu'ils ont un logement qui est moins propice à la tranquillité nécessaire à l'étude, parce qu'ils n'ont pas de soutien familial, que ce soit pour des raisons pratiques ou pour des raisons culturelles. Et donc, si on veut assurer l'égalité des chances, il faut une action positive. Je n'aime pas la discrimination positive, je suis contre. Mais une action positive qui fasse qu'on mette vraiment dans les mêmes conditions de préparation tous ceux qui auront à être en compétition. Johnson, le président des États-Unis, avait une assez bonne image. Il disait, si vous mettez face à face un athlète surentraîné et un monsieur que vous venez de libérer de ses chaînes, la course qu'ils feront l'un contre l'autre ne montrera pas les mérites de l'un vis-à-vis de l'autre. Donc une action positive. Et aussi des conditions de vie acceptables, car aucune action publique ne pourra compenser une inégalité de logement, une inégalité de santé trop forte. Mais il ne suffit pas de l'égalité pour arriver à l'intégration. La Grande-Bretagne, qui a le même souci d'assurer l'égalité, ne cherche pas à assurer l'intégration. Et il faut ajouter le troisième élément, c'est la participation à la vie commune. C'est-à-dire assurer le vivre ensemble. Alors bon, ça veut dire que le vivre ensemble, notre vivre ensemble se déplacera comme le vivre ensemble des immigrés bougera aussi. C'est-à-dire les cultures s'enrichiront l'une l'autre et il y aura probablement un métissage social qui se produira indépendamment de tout métissage individuel. Mais je pense que ce métissage est bon. Et cela s'obtiendra par les services publics, par la vie sportive et culturelle, par un tissu résidentiel ne faisant pas de ségrégation, et aussi par le fait que dans le cadre des valeurs communes, qui sont les droits de l'homme et le respect de la loi, il y ait l'accueil des idées et des histoires. Et pour conclure, je voudrais faire une citation, non pas de Philippe d'Iribarne, il me le pardonnera, mais de Pierre Rosanvallon. Deux phrases. La première, il y a dans le populisme la présupposition d'un peuple uni formant un bloc, alors que l'esprit démocratique pense au contraire le lien social et politique comme quelque chose à construire qui n'a aucune naturalité. Et une seconde phrase de lui, la gestion des différences constitue le centre de la vie politique. Et je crois que c'est bien là notre enjeu. Merci.
Donc je passe la parole à Claude Rivlin.
Ma place à cette tribune repose sur les apports de la recherche en gestion. La recherche en gestion a pour principal objet de mettre en évidence les mécanismes qui poussent à des choix qui ne sont pas véritablement voulus, voire même pas véritablement conscients. Je tiens à avertir le public que ce n'est pas facile à accepter. Le public de l'École de Paris est très accoutumé à ce genre d'insolence. Je suggère que l'on mette pour public averti lorsque ce sera projeté à la télévision. En effet, se dire qu'il se passe dans notre esprit et dans nos comportements des choses que nous n'avons pas voulu, c'est désagréable. Je l'affronte parce que c'est important par rapport au sujet de l'immigration. J'énumérerai trois facteurs qui nous poussent ainsi contre notre gré. L'urgence, l'antagonisme entre les sédentaires et les nomades et l'inévitable incohérence de la pensée humaine. L'urgence. Imaginons qu'en France, un jour, on décide qu'il y a tellement de procès pénaux à mener et si peu de magistrats qu'il faut gagner du temps. Eh bien, il y a un procédé foudroyant pour gagner ce temps. On met en abscisse sur tous les procès du passé la couleur de la peau, du plus blanc au plus noir, et en ordonner le nombre d'années de prison que les sujets ont subies. Et on va trouver une superbe, si j'ose dire, corrélation. Plus on est noir, plus on fait de prison. Alors à ce moment-là, on l'utilise à l'envers, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une rafle, on mesure la pigmentation de la peau, ce qui peut se faire de façon parfaitement objective, et on en déduit la peine de prison. On économise un procès, un avocat, un procureur, un dossier, etc. Vous voyez que ça va très vite. Alors c'est évidemment épouvantable ce que je viens d'imaginer là. Nous sommes en plein dans les débats que suscite le procès du journaliste Éric Zemmour. Mais ça marche aussi pour des discriminations positives. Je vais prendre une discrimination positive particulièrement à l'honneur à cette table, comme Louis Schweitzer l'a fait remarquer, l'entrée à Polytechnique. À Polytechnique, au concours d'entrée, il y a 10 à 15 000 candidats. Et il y a actuellement 400 places pour les Français. Comment on fait pour passer de 15 000 à 400? Et bien, on a trouvé un procédé extrêmement efficace, l'aptitude aux mathématiques. Les mathématiques présentent immense avantage que c'est facile à corriger. Donc, on va sélectionner les élites par leur aptitude aux mathématiques, sachant que pour la plupart d'entre eux, ils ne feront plus jamais de mathématiques pour le restant de leur jour. C'est une façon également de faire face à l'urgence. Alors bien sûr, entre les mathématiques et la couleur de la peau, il y a quelques différences, mais vous m'accorderez que sous l'angle de l'urgence, ça pose des questions analogues. Deuxième facteur que je voulais mettre en évidence, l'antagonisme entre les sédentaires et les nomades. Mon éducation, et sans doute la vôtre, a été hantée par des images redoutables, des gens qui bougent, les marins vikings, les cavaliers d'Attila, les sarrasins qu'on a tout juste arrêtés à Poitiers, etc. Pour nous autres, sédentaires, les gens qui bougent sont menaçants. Hitler avait entrepris de massacrer les Juifs et les Tziganes. Quel rapport y a-t-il entre les Juifs et les Tziganes? Eh bien, il est évident qu'ils bougent. Il décidait que les Juifs étaient apatrides et les Tziganes, gens du voyage. Eh bien, cet antagonisme entre sédentaires et nomades qui nous rend si méfiants à l'égard de ceux qui bougent, donc les immigrés, est profondément ancré dans notre culture. Rappelez-vous la fondation de Rome, la fondation légendaire de Rome. Deux frères jumeaux, Romulus et Rémus, sont élevés par une louve, comme nous savons, et quand ils sont grands, Romulus trace un sillon circulaire et dit « Là seront les murailles de la ville qui portera mon nom ». Et Rémus rit, il a eu tort, et saute au-dessus du sillon. Et Romulus tue Rémus. Afro-païen, me direz-vous, mais voyons la Bible. Elle commence également par deux frères jumeaux, Caïn et Abel. Ils ont un métier au moment de leur naissance. Le texte dit qu'Caïn était agriculteur et Abel était pasteur. Donc Caïn est l'homme des murailles et Abel l'homme du voyage. Et Caïn tue Abel. Donc dans nos représentations archaïques, le sédentaire et le nomade s'entretuent. Mais dans la vie courante, c'est un fait d'observation que dans une entreprise industrielle et commerciale, le commercial est en conflit permanent avec le fabricant, parce que le fabricant aime la permanence et le commercial aime le mouvement, ou dans une institution politique, d'une mairie au gouvernement, les élus et les permanents sont en affrontement continuel, puisque, une fois de plus, les uns aiment la permanence et les autres le mouvement. Donc, irrésistiblement, par nos représentations archaïques et par notre expérience quotidienne, nous nous méfions des nomades. Troisième point, l'incohérence des jugements et des comportements des personnes. Je vais prendre deux exemples, le vieux pied noir et le New-Yorkais libéral. Le vieux Pied-Noir a passé une grande partie de sa vie en Algérie et maintenant il habite Paris. Alors vous lui posez deux questions. Première question, qu'est-ce que vous pensez des Arabes ?
Je connais les Arabes, moi, monsieur. J'ai vécu avec eux. Ce sont des gens qui ne comprennent que la trique.
Bien. Puis deuxième question, racontez comment c'était la vie avec vos voisins en Algérie.
Ah, mes voisins arabes. Quels amis, quelle vertu, quelle sagesse. Et mes employés arabes, mais c'est mes enfants.
C'est le même homme qui parle. Le New-Yorkais, lui, au temps de la guerre de sécession, il aurait été du Nord. C'est un homme qui est résolument contre l'esclavage, contre les discriminations en tout genre. Et pourtant, lorsqu'il y a plus de quelques familles noires qui s'installent dans son immeuble, il déménage. Notamment, ça a été évoqué par Philippe Guéribarne, les fameuses odeurs de merguez qui ont été citées par Jacques Chirac dans un discours mémorable. C'est comme ça que Harlem, qui était au XIXe siècle un quartier blanc, chic et respectable, est devenu un ghetto noir. Pourquoi les gens sont-ils ainsi incohérents? Parce que, et ça a été brillamment démontré par un neurologue dans plusieurs ouvrages, qui s'appelle Lionel Nakache et qui est venu parler à l'école de Paris récemment, parce que nos idées, nos affects et nos habitudes sont logés à des emplacements différents du cortex. Et la synthèse entre ces trois aspects de notre personne est une histoire que nous nous racontons, mais qui n'est pas une évidence. Alors regardez le pied noir, ses affects lui rappellent ses voisins arabes qu'il adorait, mais ses idées lui disent qu'il est parti d'Algérie parce que ces Arabes l'ont chassé et que ce sont des gens épouvantables. Le lien entre les deux ne se fait pas. Il faut le vouloir pour que ça se fasse. Le New-Yorkais, intellectuellement, il souhaite l'égalité des hommes. Mais la vie quotidienne, les bruits, les odeurs, l'ont chassé et il en a souffert comme le communiste qui était évoqué tout à l'heure par Philippe Guéribarne. Autrement dit, il y a du mal qui n'est voulu par personne. Il y a des attitudes et des comportements qui entraînent des choses que tout le monde condamne. Je vous propose de dire, dans un langage qui n'est pas hors de saison dans une enceinte comme celle-ci, que c'est l'œuvre du diable. Comment peut-on combattre le diable? Je vous propose deux méthodes. La première, c'est la lumière. Le diable se plaît à l'obscurité. C'est l'effort des chercheurs en gestion de jeter la lumière sur les effets sataniques que j'ai énumérés. Le deuxième moyen, et c'est encore un mot qui n'est pas hors de saison dans cette enceinte, c'est l'amour. Le diable recule devant les manifestations de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même, dit le Lévitique. Mais le prochain, c'est le semblable. Ce n'est pas la bonne formule. Je crois qu'il vaut mieux dire, tu aimeras ton lointain comme toi-même. Je vous remercie.